Lizzie présente M, le bord de l'abîme, de Bernard Minier. Lu par Hugues Martel. Prologue. 10 yards. Elle s'examina dans la glace. Elle était épuisée et cela se voyait. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, tira la langue à son reflet, respira profondément et serra les paupières. Sentit une larme rouler entre ses cils comme une minuscule perle. Les bruits rythmiques mais assourdis de la fête parvenaient jusqu'à elle, emplissant l'espace immaculé des toilettes pour dames. Si propre, si calme, toutes ses arêtes bien nettes et ses lumières tamisées. À côté d'elle, une voix lui parla, mais elle eut du mal à saisir ce qu'elle disait. Soit qu'elle n'y prêtât guère attention, soit que la voix ne fût pas assez forte. La voix insistait cependant à la lisière de sa conscience, tel un vent léger à l'oreille d'une forêt incapable de pénétrer plus avant. « Ça ne va pas ?» Soudain, elle étouffa un hoquet et se rua dans un cabinet dont elle envoya valdinguer la porte. Elle ne parvint à vomir qu'un dérisoire filet de bave et de bile. Son estomac s'était vidé depuis longtemps. Quand elle ressortit, les cheveux en bataille, la respiration sifflante, la fille l'observait toujours. « Ça ne va pas ? Vous voulez qu'on appelle un médecin ?» Carillo ne prit pas la peine de répondre. Elle quitta les toilettes, remonta le couloir vers la terrasse, passa devant la porte des hommes. Aperçut sur sa droite, à l'extrême limite de son champ de vision, des perruques blondes, rousses et même bleues, et des boas en plumes autour de cous massifs, au moment où quelqu'un sortait. De grands types habillés en femmes qui pissaient debout côte à côte dans les urinoirs. Ils riaient à gorge déployée et échangeaient des propos qui se voulaient amusants ou vulgaires. Elle-même portait un smoking avec un nœud pape noir sur une chemise blanche à jabot. Une fête travestie. Quelle idée à la con. Les hommes en femmes et les femmes en hommes. Ils avaient probablement acheté leurs accoutrements ridicules du côté du Ladies Market de Tung Choi Street. Ou peut-être au contraire dans les boutiques très chics du luxueux centre commercial de l'International Finance Center. Va savoir. Après tout, on était à Central, le quartier des affaires, le putain de Wall Street de cette putain de ville dont le dieu s'appelait argent, fric, blé, money, give me money. Elle surgit sur la terrasse du 32e étage où l'averse continuait de fouetter uniquement le tapis et les grands parasols carrés sous lesquels s'était réfugiée la cinquantaine d'invités, tandis que la pluie hérissait la surface de la piscine désertée. Une pluie tiède et drue, comme de la pisse. Ses rideaux balayaient les façades illuminées des gratte-ciel voisins qui grimpaient à l'assaut de la nuit encombrée de nuages. En bas, dans les canyons de béton et de verre, rugissaient les moteurs, les sirènes, les klaxons, et un troupeau grouillant arpentait les trottoirs au sortir des bureaux, malgré l'heure tardive et l'orage. C'était ça, Hong Kong. Une énergie folle. La folie d'une course permanente. Le bruit, la chaleur, l'humidité, l'urgence partout, tout le temps. Les habitants de Hong Kong couraient. Ou, après quoi, elle n'en savait rien, mais ils couraient. Carillo n'avait plus envie de courir. Elle n'avait plus envie de rien. Elle avait essayé d'en parler. Elle avait consulté un spécialiste, le docteur Andy Liang, à Causeway Bay, 7 mois plus tôt. Il lui avait fait passer une batterie d'examens, d'IRM et de scanners, avait étudié son passé psychiatrique. Ensuite de quoi, il avait décidé de lui implanter ce dispositif, un truc soi-disant révolutionnaire testé en Europe et en Israël sur des patients terrassés par des dépressions sévères, celles que nul traitement médicamenteux ne parvenait à apaiser. On appelait ça de la stimulation cérébrale profonde. Des électrodes implantées dans la zone frontale du cerveau, celle qui agit sur l'humeur, et reliées par des fils qui passaient sous le cuir chevelu et la peau du cou à un mini-ordinateur et à une batterie logée dans sa poitrine. Les électrodes lisaient l'activité de son cerveau et l'ordinateur réagissait, si besoin était, par l'envoi d'une impulsion électrique. Tout ça en quelques millièmes de seconde, ou quelques centièmes, elle ne se souvenait plus très bien. Bref, un miracle de la technologie. De l'aveu même du docteur Liang, on ignorait comment ça marchait. Mais tout ce qui comptait, c'était que ça fonctionnait, du moins sur 70% des patients équipés. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il y avait un peu d'intelligence artificielle au cœur du mini-ordinateur logé entre ses nichons. Le dispositif qu'elle portait n'était pas exactement identique à celui testé à Jérusalem. Il était plus performant, plus sophistiqué. Il avait été mis au point par Ming Incorporated, une boîte chinoise. Carrie avait travaillé pour eux pendant 3 ans. C'était à ce titre, et à celui de dépressive incurable, qu'on lui avait offert de participer au programme. Une chose néanmoins était sûre, elle ne faisait pas partie des 70%. Parce qu'il était très vite apparu que ça ne marchait pas sur elle, oh que non. Ça n'avait jamais marché en réalité. Pas une minute, pas une seconde, quoique, au début, elle avait voulu y croire. Et ce qui s'était passé le mois dernier n'avait rien arrangé. Ce qu'elle appelait pudiquement l'agression. Quoi qu'il en fût, elle avait depuis longtemps abandonné tout espoir. Et les ténèbres s'étaient peu à peu refermées, montrant la voie à suivre. Elle avait entendu dire qu'à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, l'un des patients avait rechuté à cause de sa batterie qui était à plat. Peut-être que la sienne n'avait jamais fonctionné, qui sait. Peut-être qu'on aurait dû vérifier sa batterie à elle aussi. Mais non, tous ces gens qui s'accrochaient à la vie, même la vie la plus idiote, la plus dégradante, ils s'y accrochaient. Dans le district de Mongkok, il y avait des milliers d'êtres humains qui vivaient comme des rats dans des trous insalubres de quelques mètres carrés, empilés les uns sur les autres dans d'innombrables terriers, d'énormes tours délabrées, sans climatisation, sans confort, sans hygiène. Et néanmoins, ils s'accrochaient, eux aussi. Ils ne voulaient pas lâcher leur petite vie merdique. Alors, pourquoi n'avait-elle rien à foutre de la sienne? Pourquoi ne pas faire comme eux? Ou comme les invités de cette fête? Elle les observa. Ils se croyaient privilégiés parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, vivaient dans le luxe et du bon côté de Victoria Harbour. La moitié d'entre eux était occidentale, l'autre chinoise. Des rires, des bavardages sans conséquence, des verres pleins et des coupes de champagne. Un sur deux se penchait sur son téléphone, occupé à pianoter ou à lire ses messages, à mater des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, à se connecter à WeChat et à Weibo. D'aucuns s'en servaient pour prendre des photos de la soirée. C'était donc ça, leur vie? Rien que ça? Un téléphone?